C'est la deuxième heure de ce 1326e Sweet Home Chicago. L'invité est Max Genouel. Parti de Rennes, basé à Nantes, Max Genouel a toujours baigné dans le blues, puisant dans la discothèque familiale pour bâtir ses références et parfaire son jeu de guitare, instrument qu'il aborde très jeune. Alors on parle ensemble de sa formation The Freaky Buds, qui l'unit à Thomas Troussier, Lange et à présent Bastien Cabzon, après avoir débuté avec le batteur Hugo Devier. On salue également David Avry, qu'on retrouve derrière les fûts en alternance avec Bastien. On parle des origines du groupe, de la recherche du son et de leur premier album sorti en 2021, intitulé Hard Days Fuzzy Nights. Mais c'est plus longuement qu'on évoque tout le processus qui a donné naissance à leur magnifique second album Western Smoke, enregistré à Graceland, chez Kid Andersen, à San Jose en Californie. On évoque la jeunesse des nouveaux titres, le rôle prépondérant de Kid Andersen pour la prise de son et la production, mais aussi mille autres choses dont les anecdotes qui se rapportent à leur fabuleux voyage en Californie. La cohésion du groupe, le vent en poupe grâce à la superbe réalisation que constitue Western Smoke, sont des motifs de bonheur et de fierté pour Max Genouel, pour qui les Freaky Buds constituent un projet crucial dans sa carrière. Et c'est toujours un bonheur d'échanger avec ces musiciens passionnés, tendus à la fois vers leur projet propre, avec des compositions personnelles, à l'identité forte, également vers le désir de faire perdurer nos musiques chéries et les emmener toujours plus loin. Alors merci Max Genouel. On commence avec I Lost My Crown de l'album Western Smoke, ce sont les Freaky Buds. Les Freaky Buds avec I Lost My Crown. Voici cette interview avec Max Genouel. Je suis au téléphone avec Max Genouel. Bonjour Max, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Ouais, très bien. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était avec l'une de tes formations. On va rappeler que tu te produis, Max, dans pas mal de groupes en ce moment.
Oui, carrément. Et oui, carrément. Avec Lowland Brothers, Freaky Buds, plus d'autres artistes à côté, G.I. Sound notamment.
Voilà, et on va parler plus précisément aujourd'hui des Freaky Buds, mais peut-être en quelques mots, parler de ton histoire personnelle. Max, on connaît ton papa, Dom Genouel, qui est harmoniciste des Lazy Buddies depuis des années. Mais comment est arrivé ton goût pour la musique en général et puis le blues en particulier? Repense à tes années de jeunesse à quelques secondes.
Ah oui, mon goût pour la musique, c'est quand même un peu flou. Mon souvenir, c'est que j'étais pas très très bon à faire du sport quand je faisais des activités étant jeune, donc mes parents m'ont proposé de faire de la musique et de la guitare particulièrement, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que dès que j'ai pris une guitare, j'ai tout de suite accroché et s'est passé un truc, j'ai eu envie de jouer, j'ai pas lâché l'instrument tout de suite. Et puis mon père écoutait beaucoup de blues, donc il y avait plein de CD à la maison. Du coup, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans petit à petit. Et en fait, j'ai commencé à travailler à la guitare, quoi.
La guitare et puis la basse aussi, un peu, non ?
Ouais, la basse, c'est arrivé un petit peu
après,
mais au tout départ, j'étais vraiment branché sur la guitare. Je travaillais plein de trucs, beaucoup de trucs de West Coast blues, des trucs de swing aussi. Donc, j'ai eu mes premiers groupes de blues au lycée.
Ouais.
En plus d'apprendre la guitare, ça m'a permis de jouer assez rapidement avec des gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient aussi passionnés de blues dès le lycée, quoi. Donc, voilà un peu comment j'y suis venu. Et c'est vrai que le blues, ça m'a vraiment marqué. Écouter les disques de mon père, j'en écoutais vraiment énormément tout le temps, et du coup j'ai jamais arrêté d'en écouter depuis, quoi.
Voilà. La guitare, la basse, et puis un petit peu plus tard le chant, et puis on parle des Freaky Buds aujourd'hui, Max. Comment est-ce qu'est né ce groupe, et puis surtout quelle était l'idée de départ derrière le groupe, et puis au passage, est-ce que tu peux nous présenter les trois autres membres des Freaky Buds?
Bien sûr, ouais. Alors la création du groupe, ça s'est fait en 2018, enfin un petit peu avant, du coup je pense en 2017. De base, on n'avait pas forcément prévu de créer un groupe, en fait, avec Thomas Troussier, du coup, qui est l'harmoniciste du groupe, et Hugo De Viers, qui était le batteur du groupe à ce moment-là.
Ouais.
On se retrouvait en fait pour jouer, on avait juste envie de... On prenait des morceaux, des références de morceaux de l'époque, quoi, et notre but c'était un peu de recréer le son qu'il y avait sur les enregistrements. Donc on s'enregistrait, et à force de jouer, on était en trio au départ, on s'est dit go, on fait un groupe, quoi. On était contents de notre son, et du coup on avait envie de présenter ce truc-là un peu plus brut. On jouait vraiment un blues sans artifice, très brut, très... comme dans le style, très boogie et tout ça, quoi.
Mmh.
En fait, on a rencontré l'ancien gérant du Zigo Bar qui nous a proposé de nous trouver des dates dans les bars de la région Loire-Atlantique, quoi. Pour nous, c'était un peu une bonne opportunité de se produire en live, quoi. Et c'était aussi le moyen de se sortir du fait de juste répéter et de jouer pour nous la musique qu'on fait. Donc voilà comment un peu ça s'est créé. C'était pas forcément destiné à devenir un groupe, mais ça l'est devenu. Et puis, au bout d'un certain temps, on a commencé à écrire nos chansons. Et comme on était en trio batterie, guitare, harmonica, en fait, pour un peu étoffer le son du groupe, on a voulu prendre un deuxième guitariste. On tenait à garder le groupe sans basse.
Ouais.
Et donc, on a appelé Longe, qui nous a rejoint peu de temps après la création du groupe, quoi.
Voilà.
Un an après, on va dire.
C'est ça. Donc toi, Max, qui vient de Rennes au départ, Hugo...
Oui. Hugo, il est originaire du Lot, mais on s'est tous installés à Nantes.
Oui, voilà.
On s'est rencontrés à Nantes.
Alors, je ne le voyais pas dans le Lot, mais je voyais toujours Nantais. Thomas, qui est Nantais, mais qui vient de Caen. Et puis Longe,
oui,
qui est un Bordelais d'origine et qui lui aussi s'est installé sur Nantes. Voilà. Et donc, ce groupe, qui est un quartet maintenant, donc qui a principalement des influences blues, mais comment est-ce que vous les adaptez, tous les quatre, à l'identité du groupe? Et puis, si le groupe a une identité, j'en suis persuadé, quelle est-elle? Comment est-ce que tu la définirais, Max?
L'identité, on va dire que... Le truc, c'est que, par exemple, le fait d'avoir fait rentrer Longe dans le groupe, musicalement, il a vraiment un groove à lui. Il a vraiment ce truc qu'on appelle Hill Country Blues, Mississippi, enfin, le côté vraiment très groove sur un accord. Si je dois qualifier une identité, je dirais que je parlerais plutôt par des influences, on va dire que c'est plutôt le hill country, mais après il y a des trucs aussi, il y a un côté rock en fait dans la manière de procéder, très riff à deux guitares en fait.
Un côté rock qui transparaît en tout cas sur scène, ça c'est indéniable, et puis le côté roots, hill country blues qui va puiser chez qui? Chez Earl Burnside, chez Junior Kimbrough, tous ces gens-là.
Et le truc, c'est qu'en effet, l'identité du groupe, elle est principalement dans le live. En fait, on a aussi fait ce choix de pas trop figer d'arrangement ou de fixer des parties. On garde un côté très improvisé pour le live, en fait. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'identité du groupe. Il n'y a pas un concert qui est pareil, quoi.
Ouais, ça, c'est important. L'improvisation dans les concerts, ça se ressent, en tout cas.
lose. I got nothing to lose.
Une musique ancrée, on va dire, dans le blues traditionnel, mais qui s'ouvre aussi à d'autres styles. Comment se déroule le processus de composition au sein du groupe? Parce que c'est pas un groupe de cover, on est d'accord que c'est un groupe avec des créations pures.
Bah, de base, c'était un groupe de reprises. Après, on a commencé à écrire. Il y a eu différentes phases d'écriture, parce qu'en fait, on a sorti un premier album qui s'appelait Hard Day's Fuzzy Night, ouais, qui pour le coup a une couleur un peu plus actuelle et un peu plus rock.
Moi, j'avais trouvé aussi que cet album, je te fais la petite parenthèse sur mon impression de l'époque, ça m'avait vachement fait penser au Woodstock album de Muddy Waters.
Oui, bah, il y a un peu. C'était pas forcément une référence, mais en effet, dans la manière de construire et d'écrire et de produire aussi, c'était un peu, ça y ressemble en tout cas dans l'idée et l'esprit global. Donc voilà, du coup, ce processus sur cet album-là, en fait, c'était, on le pensait plus chanson que morceau de blues standard, donc c'était plus autour des mélodies de la voix, les textures de son, et donc c'était moins axé sur la place au solo de guitare et d'harmonica, on jouait plus des thèmes et compagnie. C'était une expérience, en fait, c'était super à faire. Maintenant, moi j'avais besoin, en tant que compositeur, enfin on composait énormément avec Hugo, on avait envie et besoin d'aller au bout de ce truc-là, d'écrire nos chansons, de faire cet album. On l'a enregistré dans un studio à Nantes qui s'appelle le Garage Hermétique, qui est tout en analogique avec plein de matériel vintage, et du coup il y a vraiment plein de possibilités là-bas, donc c'était une super expérience. Du coup on a tourné avec cet album-là quand même pas mal, et en fait quand on se réfère au live, on a beaucoup discuté avec le groupe, et en fait là où le son du groupe il est vrai et plus concret, on va dire, c'est vraiment quand on joue des tournes de blues et de hill country. Donc en fait on est revenu finalement dans les nouvelles compos, dans les nouvelles chansons, à quelque chose de plus brut, plus rétro, plus fidèle au blues classique. Mais du coup le fait d'avoir fait cet album Hard Day's Fuzzy Night avant, ça nous laisse quand même une petite patte moderne dans l'écriture des mélodies.
Ouais, chansons. Tout à fait.
She was pretty.
Là, ça m'amène à une série de questions, Max, à propos de cet album que vous avez enregistré chez Kid Andersen à Graceland. J'ai toute une série de questions, mais d'abord, comment s'est faite la rencontre avec Kid Andersen?
En fait, la rencontre avec Kid Andersen, elle s'est pas faite directement. Moi, j'ai tourné avec Alabama Mike.
Oui.
Du coup, on est devenus quand même assez proches pendant ces tournées-là. On est devenus même amis, quoi. Et moi, Kid Andersen, ça a toujours été, pour le coup, quand, depuis que j'ai commencé la guitare un peu plus sérieusement, ça a toujours été un de mes héros, je trouve, dans son approche et dans sa folie. Du coup, j'ai toujours eu l'envie dans un coin de ma tête de faire quelque chose avec lui. Donc un jour, justement, à force de discussion, des fois on était un peu en désaccord avec le groupe, mais on n'avait pas la même vision de où on voulait porter le groupe, ce qui arrive, je pense, dans beaucoup de groupes,
oui.
Moments de petits doutes. Et en fait, le truc, c'est que à force de discuter, on s'est dit qu'on voulait faire un album de blues roots, et un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, si on doit faire du blues roots, autant qu'on aille le faire dans un studio digne de ce nom, et je l'ai contacté Kid Andersen. Je lui ai envoyé un message sur les réseaux, quoi.
Voilà.
Et du coup, Alabama Mike m'a appuyé, et donc ça s'est fait comme ça, quoi, mais assez naturellement. En fait, Kid, c'est un gars qui est super cool. Et du coup, il a répondu rapidement à notre demande en disant que c'était OK. Et c'était difficile pour moi et pour les gars d'y croire au truc qui allait se produire, mais finalement, on a réussi à le faire, quoi.
Ça veut dire que si tu avais été le Max Genouel de 15 jours après le voyage, qui avait raconté le voyage, parce qu'il y a eu toute une histoire avant et après la session d'enregistrement, vous êtes partis tous les quatre en Californie, très concrètement. Si on vous avait raconté tout ça avant, vous auriez peut-être eu du mal à croire à certaines anecdotes, je ne sais pas.
Ouais, bah en fait, même les gars n'y croyaient pas quand je leur ai dit. Au moment où je leur ai dit, j'achète les billets, et ils avaient du mal à croire au fait que ça allait se concrétiser.
D'accord.
Mais bon, c'est une histoire un peu marrante du coup, parce que j'en étais persuadé et je voulais aller au bout de ce... Ça a été un dur travail pour organiser tout ça, trouver les financements et compagnie, mais j'avais cette idée en tête et j'avoue, j'ai tracé pour vraiment réussir ce projet, quoi.
Voilà, la volonté, l'argent et le temps aussi, parce qu'il y a des calendriers à respecter et on sait tous que le calendrier de Kid Andersen, c'est un truc de folie, quoi. Il a énormément de clients.
Un an à l'avance, quoi.
Ah oui, j'imagine bien.
Mais nous, ce qui est marrant, c'est que finalement, on a moins travaillé les compos, on est arrivé avec des morceaux même pas terminés au studio, alors qu'en fait, c'est quand même un truc assez fou de... Enfin, c'est une opportunité incroyable de pouvoir aller jouer là-bas. Et finalement, on est arrivé avec des morceaux plus ou moins terminés, mais ce qui était quelque chose de super cool, parce qu'en fait, ça lui a permis à lui de aussi mettre et de nous aider dans les arrangements, et du coup, d'avoir quelqu'un qui a tout son bagage pour nous aider à écrire. Enfin, c'était génial, quoi.
Parce que Kid Andersen, il est connu pour enregistrer souvent à l'ancienne, hein, parfois en live. Est-ce que c'est une méthode, justement, qui t'a surpris ou qui t'a totalement convenu et qui vous a totalement convenu à tous les quatre?
Bah nous, c'est ce qu'on voulait. En fait, on voulait jouer en live un maximum de choses et reproduire justement ce qui se passe en live quand on joue en concert, quoi. Donc du coup, pour moi, il fallait justement trouver quelqu'un qui nous fasse... Parce que le truc du live en studio, c'est que si t'as pas le son,
ouais.
Tu vois, avec les amplis, si t'as pas un gars qui sait te faire sonner dans sa pièce, c'est très compliqué de jouer du blues, en tout cas avec ton émotion et ton authenticité, si tu retrouves pas ton son. Et la force de Kid Andersen, c'est que quand on arrive chez lui, il nous branche dans les amplis, il nous aide à régler les amplis, et en fait, on a le son direct.
Ouais.
Tu mets ton casque pour entendre ton retour, t'as un mix presque d'album roots dans le casque, et du coup, bah, c'est hyper inspirant, tu vois.
Je comprends, là, ça vous a forcément mis à l'aise dès le départ, puis c'est vrai que son studio regorge d'instruments, d'amplis anciens. Vous avez expérimenté beaucoup de matériel que vous n'utilisez pas habituellement, et avec un impact sur votre son, forcément, est-ce que ça a donné suite après à des petits changements, des réglages particuliers, après l'enregistrement, une fois...
Ah, après l'enregistrement?
Ouais, la question, c'est, est-ce que travailler à Graceland, ça a changé votre façon d'aborder le son ou les arrangements?
Oui, carrément. Carrément, en fait, ça nous a fait réfléchir sur le côté un peu brutal qu'on mettait avant et le côté très rock.
Oui.
En fait, ça nous a fait un peu revenir. On voulait garder cette énergie, mais être beaucoup plus attentif au son et à l'équilibre de tout le monde sur scène et aux parties pour qu'elles s'imbriquent bien. En fait, de rajouter un peu de finesse dans la manière d'aborder le son du groupe en live. Donc, de jouer un peu moins fort et d'avoir quand même le son et l'énergie, mais de mettre beaucoup plus de nuances. Enfin, ça nous a vraiment apporté ce truc-là, en fait, de passer chez lui.
That I'm guilty. I got to tell you my real story. With my heavy soul and my brand new hopes, I met an angel with hell on fire, and it felt like everything would be fine. Her welcome music, her eyes made of light.
that I'm guilty. I gotta tell you my real story. With my heavy soul and my brand new hope.
Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, personnellement, Max, dans la manière de produire, dans la manière de diriger une session de la part de Keith Anderson?
En fait, c'est sa simplicité qui est dans l'efficacité. C'est-à-dire que si tu arrives dans un studio, le gars qui va mixer ou en tout cas enregistrer sait pas comment faire sonner un morceau de blues, quand tu vas faire une écoute et que tout est à plat, rien n'est mixé, c'est difficile de l'entendre et c'est difficile d'être persuadé que c'est la bonne prise.
Ouais.
Avec Keith Anderson, en fait, il produisait à la prise. Donc, du coup, dès qu'on arrêtait le morceau, déjà lui, au bout de 3 prises de chaque morceau, il nous disait c'est bon, c'est terminé, on a ce qu'il faut, et en fait il nous arrêtait, parce que souvent on doute aussi.
C'est comme s'il avait déjà le mixage et le mastering dans la tête, quoi.
Bah, en tout cas, c'était déjà produit, et donc quand il mettait le morceau à l'écoute instantanément après l'avoir
enregistré,
on avait déjà une projection du son, tu vois. Et du coup, pour nous, c'était hyper agréable d'entendre de cette manière-là, parce que ça nous a convaincu que c'était la bonne prise à chaque fois.
Vous avez enregistré en conditions live tous ensemble ou avec des overdubs?
Les overdubs, c'était sur les voix, quelques percussions, parce que justement, les voix, lui, il met aussi un point d'honneur aux voix, à l'accent. Du coup, ça aussi, ça a été un moment hyper important pour moi, parce que voilà, on est français et on n'a pas tous la même faculté à avoir l'accent, en tout cas le bon accent pour chanter et faire, je dis entre guillemets, faire la blague dans le sens être crédible avec son anglais. Mais lui, il m'a vraiment aidé à chanter les phrases. On a fait une session de prise de voix qui était hyper intense, mais où justement il prenait le temps de tout m'expliquer. Il nous a aidé à corriger des textes, hein, parce qu'il y avait des expressions où nous on avait écrit. Il nous a aidé à les simplifier pour que ça soit plus musical. Du coup, il a un vrai investissement là-dedans, et du coup ça aussi ça a eu un impact, par exemple derrière pour moi, sur la manière d'aborder mon chant, moins en force, plus concentré sur l'accent et sur les accents aussi dans les mélodies, quoi.
Donc ça n'a pas été seulement une expérience musicale une semaine avec avec un bel album et on est content. Ça a aussi forgé des artistes un peu différemment, cette expérience.
Ouais, bah ça nous a rapprochés tous, ça nous a donné envie de jouer ensemble encore plus. Enfin, ouais. Et puis au-delà de ça, humainement, du coup, quand on est, enfin, je sais pas, quand on est dans une session d'enregistrement, qu'on est content, qu'on est en groupe, t'es en Californie, en plus on a passé des moments avec lui à côté et tout. Enfin, c'était juste. Ouais. C'est difficile de raconter ce qu'on a ressenti sur place, tu vois, parce que c'était magique, quoi. Mais ouais, c'est un truc totalement détendu, où souvent les sessions studio, ça peut vite se tendre parce que, bah, on a la pression, et tout ça. Et lui, il a tellement c'est un grand enfant, quoi. Je sais pas, lui, il est content d'utiliser du matériel, de faire des sons un peu débiles, de pousser un peu le, enfin, du coup, c'est fun, quoi.
Et
tout ça dans la simplicité et dans la détente, quoi.
Une véritable expérience humaine, donc, avec Keith Anderson. On va rappeler que son studio, c'est sa maison à San José, ça s'appelle Grisland. Est-ce que tu aurais une anecdote comme ça, soit à propos du voyage qui a précédé la session, je crois qu'il vous est arrivé des trucs, et puis, ou alors une anecdote particulière sur le contenu des sessions, un petit truc qui te revient en mémoire comme ça, Max?
Des anecdotes, il y en a quelques-unes, mais il y a des rien à a une où en fait on est allé dans un pound shop pendant une pause de session, quoi.
Ouais.
Parce que lui, en dehors de faire des sessions, il achète beaucoup de matériel qu'il répare ou qu'il revend après. Bref, on est allé dans un pound shop où il y avait un Fender Rhodes qui l'intéressait, et Thomas avait repéré un modèle de micro qui était utilisé par James Cotton.
Ah oui.
Et en fait, Kid Andersen l'a entendu d'une oreille dans le pound shop, et il a acheté le Rhodes comme ça, quoi. Et du coup, il a négocié avec le Rhodes le micro. Du coup, il a offert le micro à Thomas alors que Thomas était parti pour l'acheter, quoi. Mais je trouve ça hyper généreux. Enfin, c'est incroyable, quoi.
Ouais,
petite anecdote, mais ça fait trop plaisir, quoi. Thomas, il était comme un ouf. Dire qu'il avait le micro, que Kid lui avait négocié gratuitement. Enfin, ça paraît pas grand chose comme ça, mais sur le moment, c'était assez émouvant, quoi.
Tu parlais tout à l'heure, on parlait un peu d'expérience humaine et puis du fait que ça vous est rapproché tous les quatre. Il y a eu aussi un moment donné dans le voyage, je crois qu'à précéder la session, à un moment où vous étiez complètement hors réseau et dans le désert, complètement isolé.
Ouais, bah carrément en fait, on était à Joshua Tree. Non, je pense qu'on était à Joshua Tree.
Joshua Tree,
on a voulu se faire un coucher de soleil, donc on a demandé à des gens s'il y avait des points cool pour voir le coucher de soleil et tout ça quoi. Et du coup, on nous a indiqué, on s'est retrouvé juste tous les quatre au milieu de nulle part, genre sans réseau, sans rien. Mais même nous, on parlait même plus entre nous. C'était genre le moment de, je sais pas, de ressources de chacun. C'était hyper paisible. C'était trop beau. Enfin, en fait, tout ce road trip qu'on a fait avant, c'était génial parce que du coup, en groupe, on partageait nos chambres de motel. Ouais, on traçait la route, on s'arrêtait voir des paysages magnifiques. Enfin, franchement, c'est difficile à raconter. Je sais pas comment.
Non, mais j'imagine très bien. Des moments suspendus.
C'était suspendu. Et puis, pour la cohésion du groupe, on se marrait à dire que c'était un team building, mais c'était un peu le truc où en fait on s'est jamais retrouvé. Enfin, moi j'avais jamais fait de voyage avec des potes comme ça, et en fait pour tous les quatre c'était la même chose, on n'avait jamais fait de voyage comme ça. Bah ouais, c'était juste génial, et on est ressorti de là encore plus proches les uns des autres, et puis inspirés aussi pour la session d'enregistrement, parce que on était super détendus, tu vois. Moi je travaille énormément pour le développement du groupe et tout ça, mais tu vois, par exemple, typiquement pour moi c'était un moment aussi où j'ai coupé aussi avec le taf. Mmh. Et je profitais de la vie avec mes potes en dehors du fait d'organiser des tournées. Du coup, ça fait plaisir aussi d'être dans ce truc-là, quoi.
Tout à fait. In the dead of night, I played my blues, a tale of love with a heart that's bruised. Shoulders burned, lost and wild. Searching for more, she took the way through an open door. Watch her through with a heavy heart, thinking we'd be forever apart. Ooh, 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 ooh. For 5 long years I played my soul.
Second chance in this new way will the ghost dance.
L'album s'appelle Western Smoke, il est arrivé quelques mois après son enregistrement, parce qu'il a fallu du temps à Ken Anderson. On sait qu'il a beaucoup de clients, il a sorti déjà pratiquement 200 albums, je crois, depuis Graceland, depuis son studio. Comment est-ce que ce disque, Max, a été accueilli par la presse spécialisée, le public? Est-ce que certaines réactions t'ont particulièrement surpris?
J'ai eu l'impression qu'il a été plutôt bien accueilli, on a eu plutôt des bonnes revues. En fait, je pense que les gens ont aimé l'authenticité dans le fond, principalement, quoi. Le côté exotique, évidemment, de l'enregistrer aux États-Unis et tout ça. Il n'y a pas forcément de chronique qui m'ont plus marqué, mais je sais qu'on a été quand même bien diffusé sur le collectif des Radio Blues et tout ça.
C'est vrai.
Déjà, ça nous fait bien plaisir. J'ai le sentiment que ça, bah, je sais pas, là, il y a énormément de dates cette année, donc en fait, j'ai l'impression aussi que là-dessus, ça a un vrai impact.
Il y a eu un impact concret sur la trajectoire du groupe en termes de concerts, de visibilité ou peut-être
là,
même.
Cette année, on a plus de 50 dates, tu vois.
Ah,
donc,
oui.
C'est énorme, on n'a jamais eu ça.
Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, parce qu'un groupe qui te dit on fait 50 dates, on est en 2000 ou en 1990, c'est un peu normal. En 2026, faire 50 dates, c'est très compliqué, non?
Bah ouais, ça se fait rare, quoi. Et puis en plus, on est en tournée européenne, donc ouais, c'est un truc de fou. On est super, franchement, on est super contents. Voilà, après, encore une fois, c'est vrai que c'est un énorme travail pour moi, et pas que d'ailleurs, mais de développer le groupe, et même à l'échelle européenne, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes de qualité aussi. Mais oui, là, je crois qu'on a quasiment 55 dates. On va annoncer les dates dans pas très longtemps.
D'accord.
Ouais, c'est incroyable. Franchement, moi, je suis fier, content et impatient aussi de faire toutes ces dates. Et justement, on a décidé aussi de revenir encore une fois, même sur le live, un truc un peu plus authentique. On a rajouté des nouvelles reprises, de morceaux qu'on aime bien. En fait, on se fait un kiff, quoi. Et je crois que c'est ça aussi qui paye. C'est le côté, à un moment, tu sais, quand tu te poses des questions, quand tu développes un groupe, t'as envie de convaincre et du coup, tu cherches le moyen de convaincre. Et finalement, là, j'ai l'impression que le fait de revenir à un truc très authentique, très blues et ce qui nous ressemble vraiment à fond, bah, c'est ça qui marche le mieux et les gens le soulignent beaucoup quand on est en concert. Ils remarquent la cohésion du groupe, mais parce qu'en fait, on est juste en train de jouer la musique qu'on aime tous, quoi.
Et puis de jouer ensemble, parce que ça paraît ensemble. Une porte ouverte, mais jouer ensemble, tous les groupes ne le font pas. L'album s'appelle Western Smoke, il est signé des Freaky Buzz, et puis cet album qui a eu, on l'a dit, un impact concret en termes de nombre de concerts, de visibilité, tu l'as dit, et puis également de confiance artistique et de confiance entre vous et de confiance en les autres. Ça, c'est important quand même au sein d'un groupe.
Bah, bien sûr, ouais, j'ai totale confiance en mes gars du groupe. Enfin, je veux dire, je suis aussi honoré de jouer avec eux. Je veux dire, au-delà du fait qu'on soit amis, je reconnais vraiment tout ce qu'ils apportent dans le groupe, mais pas que musical. Je veux dire, en termes aussi d'être humain. C'est un groupe sincère, c'est un groupe honnête, et même entre nous. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce groupe, c'est qu'on est capable de se dire quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Et c'est ce qui aussi nous a permis d'arriver là aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que si on ne s'était jamais dit ce qui n'allait pas, ce que chacun ressentait pas bien dans le groupe, on n'aurait peut-être pas fait cet album comme ça.
Ouais, c'est peut-être aussi la recette d'un bon couple, va savoir.
Je sais pas. Après, chaque groupe est différent, chaque personnalité est différente. Mais oui. Nous, on a des fortes personnalités dans ce groupe, et parfois les échanges du coup sont pas toujours évidents. Mais à force de parler, de s'écouter les uns les autres, ça fixe des limites et ça nous permet d'avancer ensemble et que tout le monde s'y retrouve. Et c'est juste trop bien, quoi. Et je m'estime chanceux de faire partie d'une aventure comme ça, voilà. Même si j'officie beaucoup pour qu'elle existe. En tout cas, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de nous quatre plus des gens aussi qui travaillent autour avec nous.
Voilà, c'est le secret, c'est se dire les choses et puis se faire confiance. J'ai une question plus générale, Max. Avant d'aborder les projets, le blues, c'est une musique, bien sûr. Tu évoquais l'authenticité, le fait de coller un certain nombre de références et de légendes. Le blues, c'est une musique chargée d'histoire, bien sûr. Alors, comment faire pour la rendre actuelle sans la dénaturer, justement?
Comme je te disais, je pense que déjà, ça passe énormément par le son. En fait, c'est compliqué parce que on a, par exemple, moi, je vais avoir des influences à moi en tant que guitariste que quelqu'un d'autre n'aura pas les mêmes. Donc, quand on est un groupe, je pense que pour la rendre la garder actuelle, il faut la jouer au plus proche, on va dire, dans la base de la musique, c'est-à-dire que il y a des parties de guitare qui s'imbriquent, qui sont écrites comme ça, qui ont été écrites comme ça sur les premiers enregistrements, et je pense qu'il faut les respecter au maximum, mais derrière, ça passe par, on peut quand même se sentir libre de faire une mélodie un peu différente, qui va pas forcément coller au code de ce qui a été fait.
Oui.
Ça peut être aussi, je sais qu'avec Thomas, par exemple, guitare et harmonica, on fait beaucoup de thèmes tous les deux, et là où ça va rajouter un côté un peu plus rock et un peu plus actuel, de mettre un peu le point d'honneur de notre musique autour des riffs guitare harmonica avec un son, tu vois, recherché. J'utilise des pédales fuzz, Thomas aussi utilise des reverbs, des échos, des trucs. On essaye d'agrémenter de petits effets qui permettent aussi de casser un peu la couleur classique, quoi.
Ouais, ouais.
Mais en même temps, je te dis ça, on révolutionne rien du tout, c'est à dire qu'on utilise des choses qui ont déjà été faites, mais on la met un peu dans notre folie, dans notre patte à nous, tu vois. Et
voilà, vous avez votre propre son, en tout cas, on le reconnaît.
Après, moi, je suis aussi fan de rock et je suis aussi fan de musique plus psychée, de plein de trucs. J'en sais rien, du coup, ça a forcément un impact d'écouter même des albums plus modernes. Inconsciemment, ça a un impact dans ton son, dans ta manière de jouer, tu vois. Donc, je pense qu'elle se modernise par ça aussi.
Et ça s'entend aussi dans ton travail avec Lowland Brothers, hein, en particulier.
Oui, totalement. Par exemple, ça, c'est un groupe qui me fait aller un peu plus loin dans une démarche artistique là où je serais peut-être pas allé il y a quelques années. Mais du coup, c'est hyper bien, c'est hyper intéressant.
Alors, le nouveau batteur s'appelle Bastien Cabzon. Il a remplacé Hugo il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se passe
non,
bien.
Non, il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est comme s'il avait fait partie du trip en Californie. ou pas tout à fait?
Je peux pas dire ça parce que c'est tellement un moment à part. Mais par contre, c'est quelqu'un, Bastien, c'est un gars à qui je m'entends hyper bien et je suis très content qu'il ait rejoint le groupe. Et en fait, oui, il colle totalement à l'esthétique. C'est-à-dire que ce truc de Hill Country Blues, lui, c'est complètement sa came dans sa manière de jouer, dans la manière dont il a envie de jouer le blues, j'ai l'impression. Donc, ouais, il colle parfaitement. Et évidemment, quand tu changes de batteur, ça change quand même des choses dans le
groupe. Ça change la couleur, oui. Mais là, vous avez trouvé un peu votre Cédric Burnside finalement.
Mais c'est cool. Ouais, carrément. Non, on est très content. Je profite aussi pour dire qu'il y a Bastien et il y a aussi David Avry. Il y a deux batteurs qui jouent, qui se donnent le tour.
Ouais, David Avry qui joue également dans les Lazy Buddies.
Ouais, et du coup, David, on avait monté notre premier projet où on s'était mis au chant The Big Shot il y a quelques années.
Ouais.
Et voilà, du coup, David fait aussi une bonne partie des dates. Et donc, je profite de juste lui faire un petit coucou et de le remercier aussi parce que je suis très content de le retrouver dans ce projet et de jouer avec les deux batteurs différents. Quoi.
Voilà. Bien sûr. Salut, David. Est-ce que, Max, tu as un souvenir de concert particulièrement marquant avec les Freaky Butts?
Oui, il n'y a pas très longtemps, c'est quand on a joué à Moulin Blues.
Ouais.
C'est un festival où je suis allé en touriste il y a quelques années voir Kim Wilson. De se retrouver là, c'est incroyable. Et puis en plus, t'as un public de gens qui sont là pour écouter du gros blues et c'est incroyable. Franchement, ce moment-là, c'était fou. C'était fou.
Voilà, le public belge qui n'est jamais en reste, effectivement. Moulin Ospel, c'est un endroit dont on parle souvent dans certaines interviews et pas forcément avec que des groupes belges, mais également des groupes français qui n'en reviennent pas d'avoir joué là-bas. Tu évoques Kim Wilson, c'est vrai que tes pieds étaient là où il y avait ceux de Kim Wilson. Est-ce que ça t'est arrivé de buffer avec lui ou ça reste un rêve?
Ouais, ça serait un rêve, ouais, carrément, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait pas.
Thank you.
Max Genouel, il me reste deux questions. La question traditionnelle de fin d'interview, quels sont les projets à venir pour Freaky Buzz? Album, tournée, collaboration?
Pour le moment, tournée. À terme, j'aimerais bien faire une tournée en Californie pour finir la tournée de cet album et aller la faire là-bas. Donc on verra dans quelle mesure c'est possible. Album, non, pas tout de suite, parce que c'est quand même un gros travail. Donc du coup, on va juste surfer un peu sur ce truc-là pendant quelques temps. Je pense qu'on a plein de trucs à faire. Il y a des festivals européens qui, je crois, veulent nous re-signer aussi. Donc je pense que là, les deux prochaines années, ça va être surtout du live. Après, j'ai quelques morceaux que j'ai écrits sous la main, donc je pense qu'on va potentiellement faire quelques sessions pour sortir des singles, mais pas forcément en album, mais peut-être dématérialiser, quoi.
Voilà. Et peut-être en profiter pour les tester sur scène avant de les enregistrer.
Oui, carrément. Exactement. Exactement. Et puis, oui, pourquoi pas inviter. J'ai quelques idées en tête, mais je n'ai pas envie forcément d'en parler pour
l'instant. Bien sûr.
Pas réalisé. Mais oui, j'ai des idées en tête pour la suite, ouais, carrément.
Dernière question, Max Genouel. Est-ce que tu as un message à faire passer auprès des auditeurs de Sweet Home Chicago? Question ouverte.
Un message à faire passer, c'est souvent le même message, mais en tout cas, je pense que j'engage les gens à continuer à aller voir de la musique en live et à acheter des disques, parce que c'est quelque chose de, c'est toujours des super objets, et c'est différent d'écouter un album et de se concentrer et de bien se poser dans son canapé à l'écouter que de faire défiler sur les plateformes de streaming. Encore plus pour la musique qu'on joue et la musique blues où c'est très vivant sur les albums. Et puis, je sais pas, j'ai envie de dire keep the blues alive, quoi, qu'on continue à faire vivre le blues, parce que c'est une musique qui, je pense, est présente dans plein d'autres styles, et voilà, il faut continuer à la faire vivre, à la soutenir. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent et qui viennent à nos concerts, quoi, et aux concerts d'ailleurs des autres artistes.
Max, merci. Avant de te remercier et puis de te dire à très bientôt devant une scène, j'avais une toute dernière question science-fiction, si tu permets, je te la pose.
Vas-y.
Alors, tu reçois un mail cet après-midi, tu ouvres le mail et je te donnerai le nom de l'expéditeur après. Cher monsieur, nous serions heureux de vous accueillir pour produire et enregistrer votre prochain album. Qu'est-ce que vous en pensez? Signé Dan Auerbach. Qu'est-ce que tu réponds?
En fait, j'avais contacté le label Easy Island avant de contacter Keith Anderson.
Ouais.
Ils ont écouté ce qu'on avait fait. Ils l'ont écouté plusieurs fois, d'ailleurs. Moi, j'y vais direct. Enfin, je veux dire, je ne me pose même pas la question, je pense. Parce que Dan Auerbach, c'est pareil. C'est un producteur et artiste que je respecte beaucoup. Donc, là, ça serait le Graal pour moi d'aller enregistrer là-bas.
Merci pour ça. Et puis, encore une fois, merci pour cette belle interview. On a pu écouter plusieurs extraits de l'album Western Smoke des Freaky Buds. Par quel titre voudrais-tu qu'on conclue cette interview? C'est toi le DJ pour les 3 minutes qui viennent.
Je dirais Struggling and Shuffling.
Ok.
Je pense que c'est mon petit favori.
On termine avec ça. Merci Max, à très bientôt.
Merci à toi et à très bientôt. Ouais.
Au revoir Max.
Merci Marc, à plus.
Salut. Ciao. Max.
buried in the ground. Well, I'm struggling and shuffling, thinking of people in the streets. I say I'm struggling and shuffling, thinking of people in the streets. And as I fall asleep in this crazy place that I should leave, all I have to feel is this loneliness crushing me down. This loneliness crushing me down. Ooh, this loneliness crushing me down.
Merci à Max Jenuel. On a pu écouter les Freaky Birds, Nothing to Lose, extrait de Western Smoke, ainsi que Guilty, Devil Woman, The Comeback, Devil's Night et Struggling and Suffering. Et puis également une petite incursion dans leur premier album, Hard Day's Fuzzy Night, avec le titre Way to Wild. En guise d'introduction à l'interview de la semaine prochaine avec Shemika Copeland, on termine tranquillement avec Blame It on Eve, extrait de l'album du même nom.
Hi, this is Shemika Copeland and you are listening to Sweet Home Chicago, Radio 666.
Tropical.